Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 88. Cet entretien est avec Stéphane Lecouturier, associé de l'agence Altima, basée à Lille et avec des bureaux en Chine, Russie et États-Unis. Avec sa grande expertise opérationnelle sur le user experience, j'ai échangé avec Stéphane sur les best practices dans l'e-commerce, par exemple, pour le checkout, le visual merchandising, ainsi que les leviers du marketing digital comme le marketing email et le SEO. Une excellente conversation, bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur l'émission radio téléchargeable Minter Dialogue, où on parle des marques, de l'internet et les nouvelles technologies. Je suis Minter Dial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog MinterDial.fr, où vous trouverez les show notes pour l'entretien qui suit, avec l'ensemble des sites et des liens cités dans l'émission. Si vous lisez anglais, j'ai également mon blog en anglais, TheMindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T. Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue.
Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue. Aujourd'hui, invité à Saint-Pancras, vous allez entendre plein de bruits, des annonces de trains qui partent dans notre beau pays, la France, ou à Lille certainement. Stéphane Lecouturier, donc raconte-nous qui tu es, ce que tu fais et quel est ton état d'esprit.
Bonjour, donc je suis...
Ah bah oui,
eh bah oui on voilà, on va laisser la madame parler. Donc je suis donc directeur du design chez Altima, donc à ce titre j'encadre les studios de création graphique et l'équipe qui travaille sur tout ce qui est expérience utilisateur.
Alors, oui, alors ton état d'esprit ?
Et mon état d'esprit, c'est curieux, très ouvert. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de choses qui bougent beaucoup dans nos métiers, donc voilà, curieux.
Alors Stéphane, de ce que vous faites chez Altima, vous faites plein de choses, vous êtes nombreux et vous êtes sur plein de pays dans le monde. C'est vraiment de travailler sur le user experience. Et dans ce monde-là, c'est quand même un chantier relativement nouveau où il n'y a pas beaucoup d'expertise et d'expérience. En revanche, ce qu'on peut savoir, c'est que c'est très complexe de rendre l'UX agréable et formidable. Quelles sont les clés de succès pour arriver à trouver un bon UX ?
Alors tout d'abord, dans UX, il y a user, puisque c'est user experience. Donc ça veut dire que le point le plus important pour moi, c'est de bien comprendre à qui on s'adresse et pourquoi on le fait. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de projets sur lesquels on minimise en fait le rôle de la compréhension de qui est l'utilisateur final, donc qui il est, comment il utilise le produit ou le site et quelles sont ses attentes. C'est pour moi un des éléments clés. Si on arrive déjà à comprendre en fait qui il est et ce qu'il attend, on a remporté, je pense, la moitié du pari déjà.
Alors, je comprends. Mais moi, je suis un grand groupe d'assurance. J'ai des millions, voire des 10 millions de clients. J'ai iOS, Android, j'ai des plateformes à droite, à gauche. J'ai des départements qui disent « Non, attends, il faut que mon département soit dessus. Il faut que je vende plus. » Comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que l'UX final pour ce fameux user soit la bonne ?
Eh bien, là, on parle plutôt d'usage, c'est-à-dire qu'on a déterminé qui est l'utilisateur, quel est son contexte. Maintenant, on va déterminer en fait quelles sont les différentes interactions. C'est-à-dire qu'un utilisateur, même dans le domaine de l'assurance, si je prends un cas concret, en fait, un courtier en assurance qui va aller avec sa tablette à la rencontre de prospects directement à leur domicile, il va pouvoir leur proposer donc des projets d'assurance auto, maison, assurance vie, etc. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, chez la plupart des assureurs, dès qu'ils changent de produit, le courtier est obligé de changer d'outil. Donc, c'est-à-dire qu'il est obligé de changer complètement son mode d'interaction avec le siège, avec la tablette. C'est-à-dire qu'il change de discours aussi auprès du client. Et donc, ça crée des ruptures qui sont extrêmement complexes. Donc, un des exemples, c'est justement avoir une espèce de cartographie de l'ensemble des outils, l'ensemble des outils effectivement qu'on va utiliser lors d'un rendez-vous avec un client pour s'assurer qu'en fait que tout soit cohérent, qu'on ne repose pas deux fois la même question au client qu'on a en face de lui. C'est extrêmement important. C'est ce qu'on réalise notamment pour ING Direct qui est un de nos clients en banque à distance. Eux ont très vite compris que c'était très important en fait, de ne pas reposer deux fois la même question à un client. Il n'y a rien de plus agaçant quand on est client que de nous demander mais quels sont vos revenus. Vous le savez puisque tous mes revenus sont domiciliés chez vous.
Oui, ils vous demandent d'entrer deux fois votre email.
Oui, par exemple, où poser des questions sur quels sont les produits que vous détenez déjà dans notre banque. Bah, je suis chez vous, donc vous devriez le savoir. Donc il y a certains acteurs comme ING notamment qui le traitent très bien, et puis d'autres, notamment en France, qui sont pour le coup beaucoup plus en retard sur le sujet.
Alors Stéphane, dans les demandes de clients, j'imagine qu'il y a des questions comme Stéphane, j'ai besoin d'augmenter mon chiffre d'affaires, j'ai besoin d'augmenter le trafic, le taux de transformation, améliorer le taux de conversion au checkout. Quelles sont les demandes les plus récurrentes et quelles sont les astuces quelque part par rapport à ces types de questions?
Alors effectivement, pendant longtemps, en fait, nos clients étaient focus sur la création de trafic. Ça, c'était vrai il y a encore 5 ans. C'était comment on fait pour créer un maximum de trafic qualifié sur mon site. Et puis on se rendait compte qu'en fait, il n'est pas tellement en compte le taux de transformation, le taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de clients qui entrent sur le site et qui repartent en ayant passé une commande. Donc ça, c'est quelque chose qui a toujours été mesuré, mais il n'y avait pas vraiment de prise de conscience de l'importance de ce sujet, puisqu'aujourd'hui le trafic coûte de plus en plus cher quand on cherche à avoir du trafic qualifié. Donc il y a une vraie prise de conscience effectivement de nos clients et des annonceurs en général sur le taux de conversion. Et la question qui revient le plus souvent, c'est comment effectivement j'augmente le taux de conversion et comment je l'augmente très vite, puisque tout le monde n'a pas le temps ou le budget nécessaire pour faire une refonte en profondeur de son système d'info, de son site. Donc c'est comment j'arrive en fait à déployer des améliorations immédiates, comment j'arrive aussi à faire du test and learn pour voir effectivement ce qui marche, ce qui ne marche pas, pouvoir aussi faire des essais, naviguer à vue, voir ce qui prend et puis pouvoir revenir en arrière si ça ne marche pas. Alors, donc il y a une agilité sur ce point-là qui est vraiment très attendue de la part de nos clients.
Alors si on parle de taux de conversion, quelles sont les astuces? Parce que, enfin, évidemment, ça a l'air de l'or tout de suite, parce que si tu arrives à passer de 3 à 4%, c'est de l'or dans la banque.
Tout à fait. Alors, généralement, en fait, on essaye de raccourcir le check-out. C'est une des modes du moment. C'est d'essayer de limiter le nombre d'étapes en fait dans le parcours d'achat et éviter d'avoir 5 étapes quand on peut en avoir qu'une seule ou que deux. Il y a plusieurs écoles. Il y a effectivement des gens qui sont convaincus que ça marche mieux. Moi, l'enseignement que j'en fais, c'est que ça dépend vraiment du contexte et que parfois, en fait, à vouloir réduire les étapes, on complexifie la première étape. C'est-à-dire, je passe de 5 étapes.
C'est trop lourd.
Ouais, je passe de 5 étapes à une seule, ça peut aussi faire peur. Donc ça dépend vraiment, vraiment du contexte. Et il nous arrive dans certains sujets de rajouter des étapes. C'est-à-dire qu'on préfère rajouter une petite étape supplémentaire qui permet en fait d'être très clair vis-à-vis du client. Il sait ce qu'il fait. Et puis c'est parfois plus fluide. Mais encore une fois, ça dépend vraiment, vraiment du contexte. Mais je dirais que le point principal, c'est au-delà de la notion d'étape dans un check-out, c'est déjà s'assurer que tout est clair. Et on se rend compte que la plupart du temps, il y a pas mal d'échardes dans le parcours qu'on peut corriger extrêmement facilement, qui sont parfois des problèmes de vocabulaire, des problèmes d'ergonomie toute simple, qui font que le formulaire n'est pas complètement utilisable ou on crée un doute là où on ne devrait pas y en avoir. Donc on commence généralement par corriger déjà ces premiers points qui permettent déjà tout seul parfois de gratter quelques pourcentages de taux de conversion.
Alors si on revient sur le sujet de génération de trafic, le SEO, donc la recherche organique naturelle, sans l'avoir à payer. Quelles sont les astuces là-dessus que tu peux apporter quand tu parles avec un client ?
Alors le SEO, pareil, c'est quelque chose qui est en mutation constante. Google a rebattu les cartes
constamment,
mais de façon assez violente il y a quelques mois là en fait avec l'impossibilité de traquer finement maintenant la provenance des utilisateurs. Donc ça recomplexifie le métier du SEO. C'est pas forcément mauvais, ça veut dire qu'en fait ça nous oblige aussi à nous réinventer et on rejoint en fait vraiment en ce moment des notions de brand content qui est très à la mode, mais c'est de se dire comment je crée vraiment du contenu qui soit utile pas que pour Google mais qui soit utile vraiment pour l'utilisateur final. Et on se rend compte que ça redonne de la richesse, ça redonne du sens en fait aux mots, au contenu qu'on crée parfois encore une fois vraiment pour des robots et ça déplace en fait c'est à la fois un métier technique le SEO, mais c'est aussi un métier de contenu. Donc ça redonne une lettre de noblesse en fait au contenu et c'est assez excitant.
Alors, je, évidemment, je suis pleinement dessus. Et création de contenu, ça me parle beaucoup. Et puis le blogging à l'intérieur de ça. Combien est-ce que la marque joue un rôle dans la manière de créer un contenu et un SEO approprié? Parce qu'on peut, on peut jouer ça techniquement, comme tu disais. Mais à la fois, la marque doit être le ADN du contenu. Donc, comment faire, par exemple, si j'ai une marque qui est un peu creuse, comment faire? Est-ce qu'on peut faire abstraction ou pas?
Alors, moi, mon analyse, c'est que tu ne peux pas faire abstraction de la marque. C'est que c'est essentiel d'être raccord avec ta plateforme de marque, avec l'ADN voilà, qui fait que tu es, ta marque est différente d'une autre. Donc, faut pas perdre ça de vue, c'est extrêmement important. Par contre, on se rend compte qu'il y a, encore une fois, en donnant du sens et en étant vraiment concentré sur l'utilisateur, il y a des choses qui sont assez faciles à mettre en œuvre. Quand un acteur du prêt-à-porter comme Jules donne des conseils sur la mode, bah, il le fait en expliquant comment faire un nœud de cravate parce que c'est une cible parfois de novices. C'est des choses qui marchent très bien. Et pour autant, Jules vend pas énormément de cravates. Mais en fait, ça met en pratique et ça correspond aux valeurs de on simplifie la mode, c'est facile pour toi et c'est vraiment raccord avec la cible. Donc il y a des petites astuces comme ça qui sont assez intéressantes et qui sont encore une fois liées à la plateforme de marque.
Oui, alors là en l'occurrence c'est une utilité parfaitement adaptée par rapport à la cible. En quoi je pensais, c'est que beaucoup de marques, ils ont une certaine ambiance, ils ont des images, ils ont une typologie, ils ont même des Pantone et tout ça. Donc, une définition de la marque. En revanche, en termes de création d'un contenu qui parle, qui est différenciante des autres, où il y a une légitimité de la marque d'en parler, souvent c'est un problème.
Oui, il y a beaucoup de gadgets en fait. Il y a effectivement beaucoup de campagnes donc labellisées brand content avec des clips, mais des choses qui existent finalement depuis très longtemps, hein, qu'on a simplement, c'est mon point de vue en tout cas, rebaptisé brand content, mais des making of de shoot photos, ça existe depuis des années, oui. Des webzines aussi, etc. Donc il y a eu un peu un effet de mode, on a rebaptisé ça. C'est vraiment lié au produit et en fait c'est effectivement pas que du rédactionnel non plus, pas que de l'éditorial. On se rend compte qu'il y a la grande mode des infographies où on décrypte des choses compliquées sous forme de représentations graphiques avec des illustrations généralement assez jolies. Ça a un côté aussi pédagogique et intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est créer du contenu orienté produit ou service, c'est-à-dire qu'au lieu de créer du contenu destiné à créer du trafic, on se rend compte que c'est souvent intéressant de trouver du contenu qui soit aussi qui serve aussi à vendre le produit, qui est quand même la base des e-commerçants. Souvent il y a très bon contenu SEO, très bon contenu de communication de marque. Par contre ils sont un petit peu tout nus quand il s'agit de parler de leur produit. L'effort nécessaire pour expliquer leurs produits n'est pas forcément à la hauteur des enjeux.
Et alors, Stéphane, quand on est en train de parler de création de contenu, combien est-ce que le sujet d'écrire un blog est au courant? Est-ce que c'est démodé? Est-ce que c'est de l'actualité? Comment tu gères et comment est-ce que vous recommandez par rapport aux clients le sujet de blog, vlog ou autre?
Alors c'est assez rigolo parce que cette question, parce qu'effectivement il y a eu la mode du blog où tout le monde en faisait sans savoir exactement ce qu'on allait mettre dedans. Puis après c'était plus du tout à la mode, ça devenait presque ringard parce qu'il fallait faire d'autres choses, faire du Pinterest, faire du Facebook, etc. Et puis ça revient un petit peu à la mode, alors pas forcément sous la même forme, mais le point commun c'est le contenu, c'est-à-dire que c'est une marque qui écrit des choses, qui régulièrement, qui donne des infos sur ses produits, sur des tendances, sur des services. Et on se rend compte que la plupart du temps, il y avait effectivement des plateformes de blog ou même des plateformes liées aux réseaux sociaux, mais qu'il y avait une absence de contenu. Donc il y avait des chaînes YouTube, des chaînes des Facebook, etc. Et il y avait assez peu de contenu. Et j'ai l'impression que les marques, en fait, aujourd'hui, ont compris que le contenu, c'était un peu le nerf de la guerre sur ces sujets. Et puis qu'un contenu qui était écrit pour Facebook, il était peut-être aussi intéressant à faire figurer sur un blog ou à faire figurer sur la fiche produit d'un article. Donc on a de plus en plus de contenu qui est mutuel. C'est-à-dire que l'effort qui est fait pour créer ce contenu, finalement, il est largement récupéré parce que ce contenu est de plus en plus adapté pour être diffusé sur plein de canaux différents.
quand on pense aux problématiques d'SEO, création de contenu, se faire retrouver sur Google en naturel, j'ai une question sur les changements que Google fait, qui a pour la plupart du temps un sens profond pour amener celui qui recherche au résultat qu'il veut. En revanche, combien est-ce que ça pousse la marque à aller faire des AdWords, ou est-ce que ça les pousse plus à aller sur le contenu? Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, en fait, on se rend compte que les AdWords sont souvent aussi utilisés quand il y a des faiblesses côté référencement organique. Alors c'est complémentaire et ça dépend aussi des périodes commerciales, de la concurrence, de la notoriété de la marque évidemment. On se rend compte aussi que l'investissement dans les AdWords, ça coûte très très cher. C'est beaucoup de boulot, ça coûte très cher. Donc on est un petit peu obligé de passer par là au lancement d'une marque, au lancement d'un site, encore une fois, à certaines périodes commerciales. Par contre, ça ne remplace pas le référencement organique, le référencement naturel, qui permet en fait d'assurer une place stable, notamment sur des requêtes un peu plus précises ou un peu plus longues. Si je cherche jupe pas chère, ou si je cherche jupe avec foufou, bleu clair, machin, etc., on est évidemment pas sur les mêmes sujets. Mais c'est complémentaire pour moi, c'est vraiment complémentaire. Mais on a de toute façon, tous nos clients ont intérêt à développer le contenu organique, quoi qu'il arrive.
Moi, j'ai l'impression, en t'écoutant, que Google pousse les deux champs presque de la même force, mais pour des raisons très différentes. D'un côté, tu as le SEO qui pousse les marques à être relevant, pertinent sur le contenu, long tail ou pas, mais pour créer un contenu qui amènerait celui qui recherche à avoir un bon résultat. Mais si vous êtes une marque qui n'est pas capable d'avoir un bon contenu pertinent, je vous pousse à aller venir m'acheter des mots-clés.
Oui, tu as complètement raison. Et c'est d'autant plus vrai avec les nouveaux outils de Google, puisque c'est un moteur qui est en mutation permanente. Maintenant, quand tu tapes le nom d'un film de cinéma dans le moteur de recherche, on te remonte tout de suite les horaires du cinéma qui est à côté de chez toi avec de la géolocalisation. C'est pareil avec le voyage, c'est pareil donc avec les billets d'avion, etc. Ce qui fait qu'en fait, toute la partie utilitaire en fait, du e-commerce et du web sur tous les outils de recherche, elle est aspirée en fait, par Google. Google réplique cette intelligence directement dans son moteur, ce qui fait que sur une requête qui est purement basique, tu n'auras plus besoin en fait quelque part, tu auras les résultats tout de suite dès la home page de Google en réponse à ta requête. Donc si tu ne crées pas ce contenu à valeur ajoutée, tu vas disparaître en fait. Et c'est un gros enjeu justement pour tous ces acteurs, que ce soit tourisme, cinéma, etc., qui rendent des services et qui ne vendent pas des produits, justement, de comment je fais pour capter de l'audience et comment je fais pour fidéliser à travers du contenu pertinent.
Un des axes, on va parler souvent de owned media, donc ce qui nous appartient. Donc il y a le website et le email. Combien est-ce que l'email est stratégique dans tes recommandations, ta vision de la gestion d'un programme marketing digital?
Alors l'email, c'est pareil, c'était un peu le vilain petit canard à un moment, parce que c'était la poule aux œufs d'or à l'inverse il y a quelques années où vraiment on inondait, on recevait parfois 3 mails par jour de Cdiscount. Donc c'était rigolo au début, tantôt on avait les bonnes affaires, et puis c'était surtout devenu très pénible. Encore une fois, c'est complémentaire. Je pense qu'il y a de plus en plus d'acteurs du e-commerce notamment qui ont compris que c'était important déjà de personnaliser ces emails à travers leur contenu. Donc c'est ce que fait la Fnac notamment, mais le fait de personnaliser au maximum donc le contenu même du mail, mais aussi de pouvoir travailler sur sa fréquence. C'est-à-dire que si tu regardes dans tout ce qui est des inscriptions d'email, de plus en plus souvent on te demande pourquoi tu désinscris, et avant même de te désinscrire, on te propose en fait d'avoir un rythme moins élevé. Donc c'est pour moi un signe assez intéressant de montrer que ce qui joue, c'est à la fois le contenu, effectivement, est-ce que ça me parle ou pas, mais aussi est-ce que je suis pas parfois inondé l'email. Moi je suis encore abonné à pas mal de newsletters de certains sites parce que ça m'intéresse, et parce que j'ai pas, enfin je les lis pas forcément, mais j'ai peur de louper un truc. Et ce qui est important aussi, c'est de travailler sur un accompagnement. C'est-à-dire, on a aussi de plus en plus d'outils d'emailing qui permettent en fait de travailler sur des notions de welcome pack, sur des relances intelligentes, qui du coup deviennent beaucoup plus pertinentes qu'un simple email générique envoyé pour vendre des croquettes pour chien alors que j'ai un chat, tu vois.
Oui, mais à la fois il y a la pertinence et puis il y a éventuellement la personnalisation avec un contenu, mais vraiment qui parle Stéphane Le Couturier. Voilà, ça c'est quelque chose qui vous parle parce que je sais que ça vous intéresse.
Oui, tout à fait. Et il y a aussi la façon de montrer que c'est personnalisé, parce que si on met juste bonjour monsieur Minterdial, personne, enfin tout le monde a bien compris comment ça marchait. Par contre, le fait de rebondir, donc à la fois sur éventuellement des achats que j'ai faits, mais aussi sur des sujets d'actu, sur des choses qui m'intéressent, ou en tout cas sur un ciblage précis, c'est intéressant, je trouve. Pareil, la façon dont certains acteurs comme Amazon par exemple rebondissent sur l'emailing pour collecter en fait des avis clients, c'est assez intéressant. Donc je prends le cas d'Amazon parce qu'il y a notamment, tout n'est pas parfait chez Amazon, loin de là, mais un exemple récent, c'est j'ai acheté un lecteur Blu-ray pour mon beau-père, et en fait j'ai reçu un email quelques temps après m'incitant à répondre à une question d'un autre client d'Amazon qui me demandait si le câble était fourni, s'il y avait une fonctionnalité sur l'appareil que j'ai acheté, et j'ai trouvé ça beaucoup plus pertinent qu'un email de relance que font d'autres acteurs pour savoir ce que je pense du produit. J'ai pas envie de dire ce que je pense du produit, si je suis un peu feignant.
Crowd customer service.
C'est ça, tout à fait. En fait, c'est-à-dire que ce rôle d'enrichissement et de service client qui est très complexe, surtout quand on s'appelle Amazon et qu'on vend des produits techniques, ce rôle-là est déporté sur les clients, mais à la demande. C'est-à-dire que je suis pas obligé de lire tous les avis. Si j'ai une question précise, je la pose et c'est Amazon qui joue l'entremetteur, mais de façon sympathique.
Alors, chez Altima, une autre chose que j'ai remarqué, c'est que vous travaillez beaucoup sur le visual merchandising. Et combien une photo bien faite va augmenter la taux de conversion. Parle-nous un peu des consignes autour de ça.
Alors là aussi, c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est que la place du visuel dans l'e-commerce, elle est essentielle, puisque surtout quand on vend un produit, mais c'est quelque part le seul moyen que tu as en fait de communiquer avec ton internaute, c'est de lui montrer le produit. Même si tu vends une boîte de conserve, c'est important qu'on identifie que c'est bien celle que je prends d'habitude, etc., etc. Et quand on parle plutôt de prêt-à-porter ou de fleurs, comme on a pu le faire pour Interflora, la représentation du produit, elle est essentielle. C'est-à-dire que la photo, elle sert à identifier le produit. Est-ce que c'est bon, mais aussi est-ce que c'est la bonne taille, est-ce que ça me plaît. Il y a vraiment une notion très affective, de séduction qui est extrêmement importante. Et le fait, c'est que souvent c'est sous-estimé. C'est-à-dire que sur le marché, il y a beaucoup de solutions qui existent pour prendre des photos automatiquement à 360 degrés ou des choses complètement automatisées qui permettent d'aller très vite quand on fait des shoots produits. Par contre, en termes de qualité, c'est pas encore à la hauteur. C'est-à-dire que on a encore des produits présentés sous un mauvais angle ou qui manque en fait d'âme et qu'on n'a pas envie d'acheter. Et moi, quand j'achète un bouquet de fleurs ou quand j'achète un t-shirt petit bateau, quand je le vois en magasin, il est sympa, mais il faut qu'il soit aussi sympa qu'en magasin, même plus quand je suis sur le site e-commerce.
Alors, prenons le cas de Petit Bateau, qui est une marque haut de gamme sans être forcément luxe. Quelque part, ça me fait penser à l'idée que qu'est-ce qui empêcherait une marque de petit prix, enfin, hormis la marge quand même, d'embaucher et d'avoir des belles photos? Et comment est-ce que le luxe peut en fait combattre, en tout cas, je ne parle pas des petits prix, mais le moyen gamme qui embauche un bon photographe?
Ce qui pose problème, c'est souvent la durée de vie du produit. C'est-à-dire que quand tu as un produit avec un cycle de vie très court, comme chez H&M, Zara, Camaïeu, etc., où le produit généralement vit entre guillemets en magasin une quinzaine de jours, l'investissement que tu fais sur la photo par rapport à cette durée de vie, t'as un ROI différent. Ouais. Quand t'es une marque comme Petit Bateau, tu raisonnes plus en collection qui dure de 3 à 6 mois en fonction des produits. Donc tu peux, en termes de ROI, investir un peu plus. Mais tu as raison, en fait, on peut aussi très bien imaginer demain un Amazon ou même Tati faire des photos de qualité. Enfin, et même quand tu regardes des sites comme même le site de Kiabi, qui vend des produits à faible, pas forcément marge, mais en tout cas à faible faible coût, les photos sont plutôt quali en fait. Mmh. Et donc on peut le faire. Après, c'est une question de plus de prise de conscience. Et est-ce que j'ai compris en fait l'apport, moi en tant qu'annonceur, est-ce que je comprends à quel point la photo joue un rôle essentiel dans la transfo et en plus dans l'image de marque.
Il faut que ça soit cohérent. Parce qu'en fait, avoir un bon photographe, c'est pas forcément le prix du photographe, mais parfois c'est la prise de vue, l'angle, l'humanité de la photo. Alors l'autre chose, est-ce que je suis dans le luxe, il y a un besoin de quand même faire plus d'expérimentation, de chercher à utiliser des gadgets, entre guillemets, en tout cas des moyens différents de l'exposer que juste la photo?
Oui, en fait, ça c'est le gros challenge en fait des marques de luxe, mais même des marques en général. C'est-à-dire quand tu vends en ligne notamment, tu dois en tant que marque être normalement mieux que tes concurrents qui distribuent plusieurs marques. Je prends un exemple, mais Chanel, a priori sur son site, si demain il bascule complètement e-commerce, l'expérience que tu vis sur le site de Chanel, elle devrait être en théorie beaucoup mieux que celle de Sephora, Nocibé, Marionneau et tous les autres. Voilà. Et c'est un prérequis. Et en fait, on se compte que toutes les marques le font pas aujourd'hui. Bon, les marques de luxe dont on parle a priori plutôt parce qu'ils ont les moyens et vraiment ils cherchent à faire respecter donc le brand DNA sur l'ensemble des canaux, mais c'est parfois un gap qui est difficile à saisir. Donc on joue sur l'expérience, c'est-à-dire j'ai un produit, mais au-delà du packaging, j'ai un rituel de soin, j'essaye de jouer sur l'expérience avec la texture du produit, alors c'est extrêmement compliqué, une texture de produit par exemple, ou même les bénéfices du produit quand on est sur le web ou sur les odeurs. Donc il y a divers moyens en fait de présenter des odeurs, un goût, ce genre de choses, mais c'est vrai que c'est ça demande un effort supplémentaire, ou en tout cas ça demande à être malin en fait.
Alors dernière question pour toi Stéphane, avant de prendre le train qui nous parle dessus. 2015, ça boom encore, ça va pas s'arrêter, la vitesse, mais quelles sont pour toi les choses qui t'excitent et où il y a le plus d'opportunités dans le monde du web?
Alors on est en train de voir une grosse mutation. Enfin, il y a deux éléments. La première, c'est qui concerne en fait le in-store. Encore une fois, qui est un truc très à la mode hein, en ce moment. Pourtant, les magasins, ça existe depuis très longtemps, et le digital en magasin, ça existe aussi depuis très très longtemps. Mais il y a une vraie prise de conscience que finalement le client, il a des attentes de plus en plus fortes en fait à l'heure où dans son mobile, il peut avoir accès au stock de tous les magasins du monde. Quand il est dans un magasin de ta marque, pareil, l'expérience, tu te dois en fait de lui donner une expérience top et de le servir. Donc il y a une mutation en fait sur ce côté, quelle est la place du digital en magasin. C'est pas uniquement des bornes de self-checkout ou ce genre de choses, c'est vraiment comment je prolonge l'expérience ou comment j'améliore l'expérience à la fois pour le vendeur et à la fois pour le client dans un magasin, et que ce soit son mobile, une borne, une tablette, enfin peu importe, mais comment en fait je donne plus de sens à l'utilisation du digital en magasin. Ça c'est le premier élément que je vois en mouvement permanent, mais qui y a un vrai coup d'accélérateur. Et l'autre, c'est la prise de conscience en fait des marques et des annonceurs en général de l'importance de l'expérience utilisateur. On se rend compte que c'est quelque chose qui peut paraître à la mode, mais qui est plus profond. C'est-à-dire que ça devient vraiment ancré dans la stratégie de certaines entreprises qui, du coup, nomment des responsables de l'expérience client ou de l'expérience utilisateur. C'est quelque chose qui est nouveau, en tout cas en France, même si ça existe depuis très longtemps aux États-Unis, notamment dans les banques et assurances. Mais ça permet de rebattre les cartes et puis de prendre conscience qu'on ne fait pas que vendre un produit. Il faut qu'on soit très performant dans la façon de le vendre, mais qu'on travaille sur une expérience client. Et que le client, l'expérience n'est pas satisfaisante, on a beau avoir une qualité de service ou un produit top, et au bout d'un moment il va se lasser, puis il va partir chez un concurrent qui un jour ou l'autre va nous rattraper en termes de qualité.
Oui, même si j'ai un bon produit, en fait c'est plus anecdotique. Alors Stéphane, comment est-ce que quelqu'un peut te rattraper, te suivre ou te contacter? Quel est le meilleur moyen?
Alors le meilleur moyen, c'est l'email, donc c'est slecouturier tout attaché @altima-agency.com ou sur le site d'Altima, donc altima-agency.com.
Je mettrai tout ça dans la show. Merci beaucoup de participer Stéphane.
À bientôt.
Alors merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français. Vous trouverez les channels sur minterdial.fr.
Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes, où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Cédric Giorgi de TechCrunch, Vincent Ducret, conseiller Internet au gouvernement, Jacques Lorme de Leroy Merlin, ou encore Anne-Sophie Baldry, désormais chez Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T, où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur The Mindset, ou bien me suivre sur Twitter, @MDIAL. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez.
Hello, this is Gary Chahot welcoming you to check out the French History Podcast. Our main show covers the history of France from the first humans until present. If you liked Mike Duncan's The History of Rome and wanted a similar program covering the land of beauty, culture, and love, we are exactly that. We also host world-renowned scholars who have delivered guest episodes on their specialties, including 18th century pirates, revolutionary booksellers in 20th century Paris, the special friendship between the Marquis de Lafayette and Thomas Jefferson, and numerous others. Learn what you love and listen to the French History Podcast today.